RS Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Metron et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de RS Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE Radio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, j'accueille Vincent Siandra. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Metron, merci de nous recevoir. Et à vos côtés, bonjour également à Timothée Kellard. Bonjour Timothée.
Bonjour Billy.
Vous êtes le cofondateur d'Ecodev et aujourd'hui, messieurs, nous allons accueillir Frédéric Chiquet, directeur RSE de Lumibird. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes né à Rennes, vous êtes un Breton.
Oui, je suis un Breton pure souche.
Pure souche, c'était en 1963. Et alors, vous avez toujours été passionné par la physique. Comment ça se traduisait quand on était Frédéric Chiquet à 12-13 ans ? Être passionné par la physique.
Alors, rassurez-vous, je ne faisais pas des expériences
à la maison
dans mon garage. Mais non, c'est une, on va dire, une disposition pour les matières à l'école qui font que j'ai toujours été intéressé par les matières scientifiques, que ce soit les mathématiques ou que ce soit la physique ou la chimie.
Donc, vous avez suivi votre voie et vous allez obtenir quelques années plus tard, pas à 12 ans, hein, ce qu'on appelle un diplôme en physique des matériaux. Le premier job, pourtant, vous le faites dans une micro-entreprise.
Oui.
C'était voulu, vous cherchiez quoi au départ ?
Oh, c'est beaucoup plus simple que ça. Ça s'inscrit dans une logique à l'époque de recherche d'emploi. Mon directeur de DEA avait des actions dans cette micro-entreprise et avant la fin de mon année, de mon cursus, il m'a proposé de rentrer directement dans cette entreprise.
Alors, on va la citer.
C'était une autre époque.
Hein. Oui, le verre fluoré.
Le verre fluoré.
Avec une entreprise spécialisée dans des verres vraiment atypique.
Oui.
Et pour une première embauche, 3 ans et demi, c'est pas mal. Hein ?
Oui, mais parce que les sujets, je dirais, étaient extrêmement intéressants. À l'époque, j'ai commencé à travailler, par exemple, sur des fibres qui étaient installées sur le VLT, c'est le Very Large Telescope qui est installé au Chili. Donc, vous êtes un précurseur dans le domaine, hein, donc c'est extrêmement stimulant.
Quand est-ce que vous avez décidé de dire « je pars comme chargé d'affaires » à l'Agence nationale de valorisation et de la recherche ?
Alors, là aussi, c'est encore un effet d'opportunité.
Vous changez d'un peu de voix quand même, non ?
Oui,
tu peux.
Mais je vais l'expliquer très simplement. Au bout de 3 ans et demi, dans une microstructure, si vous avez un peu d'ambition, vous vous sentez un peu à l'étroit. Hein. Parce que globalement, si vous voulez un peu plus de responsabilité, vous allez chasser sur les responsabilités du patron et ça devient un peu compliqué. Donc, comme je vous ai expliqué, j'étais rentré dans le domaine professionnel sans faire d'entretien, sans rédiger le moindre CV. Il m'est paru opportun d'aller tester mes compétences en termes d'entretien ou de capacité à me vendre. Et donc, j'ai pris un peu au hasard un poste. Et puis, durant l'entretien, ça s'est extrêmement bien passé. Il y a eu une relation avec le directeur régional qui s'est immédiatement établi. Un entretien qui aurait dû durer une heure et qui s'est terminé à 9h30 du soir.
Juste pour dîner.
Juste pour presque. Dîner, presque. mais qui a réussi à me convaincre que des profils comme le mien, extrêmement techniques, pouvaient présenter un intérêt dans les missions qui étaient celles de l'Agence nationale de valorisation de la recherche.
Très bien, mais c'est important d'avoir ce profil que vous avez eu dans votre carrière. Alors, on va accélérer. Il y a eu le groupe Alcatel. Après, vous allez reprendre des études pour créer une entreprise. Vous vouliez faire cette entreprise et elle n'a jamais été créée.
Ah non.
Jamais.
Alors jamais, non, parce que après l'éclatement de la bulle Internet, vous avez 40 ans, vous êtes cadre, vous avez un peu d'ambition, vous dites que créer sa propre entreprise pour sortir du carcan du fonctionnement d'un grand groupe peut paraître une bonne opportunité. Le risque, c'est que ça peut être une fuite en avant. Et globalement, il faut se donner une échéance. Hein. Et à l'échéance venue, les conditions n'étaient pas suffisamment réunies pour que je me lance dans la création de l'entreprise. Et en particulier avec des enfants en bas âge. Donc, il y a un moment, il faut savoir être raisonnable et dire non, j'abandonne.
Bon, en tous les cas, c'était important qu'on connaisse ce parcours qui est assez atypique. Et enfin, vous arrivez chez Lumibird. Et avant d'être RSE, qu'est-ce que vous aviez fait chez eux? Vous n'étiez pas embauché pour ça au départ?
Non, absolument pas. Moi, j'ai une formation technique et c'est mon profil technique qui a attiré le groupe Lumibird. J'ai géré beaucoup de programmes techniques au sens large, que ce soit des programmes R&D, des programmes de transfert, de production, même de la production elle-même au sein du groupe. Globalement, un homme à tout faire, hein, puisque c'est tout l'intérêt. Alors, c'est à la fois l'inconvénient et l'intérêt d'un parcours atypique, c'est qu'on a une expérience pluridisciplinaire qui nous permet d'appréhender beaucoup de problématiques qui sont celles que l'on rencontre dans l'entreprise. C'est à la fois un inconvénient parce que finalement on n'est pas un spécialiste spécifique dans un domaine, mais globalement c'est cette formation pluridisciplinaire, cette capacité à s'adapter à des problématiques nouvelles comme la RSE.
Voilà, la RSE, vous y êtes, et maintenant feu de questions par Vincent et Timothée. On commence par vous, Vincent.
Oui, aujourd'hui, chez Lumibird, la RSE est quelque chose qui, je crois, est récent. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors, elle n'est pas si récente que ça. Elle est récente en termes de création de postes, alors que précédemment, elle reposait sur diverses directions. Mais elle résulte quand même d'un contexte qui est tel qu'il y avait nécessité de créer une direction RSE. Et pourquoi il y avait une nécessité de créer une direction RSE? Écoutez, il y a trois raisons principales. Il y a une première raison, c'est une raison financière. Le besoin d'obtenir des financements à des taux intéressants pour financer notre activité, notre croissance. On a des gros besoins de financement parce que on est dans une stratégie de croissance externe extrêmement importante. Il y a un deuxième point qui est extrêmement important, c'est la nécessité de recruter des talents et de les maintenir dans l'entreprise. Et puis, il y a un troisième point qui est l'ambition du groupe, qui est un point plus stratégique, de travailler avec des clients exigeants, comme les clients de l'automobile ou comme les clients du spatial, et qui ont des exigences en matière de RSE. D'où l'obligation de créer un poste compte tenu de l'importance qu'aujourd'hui, la RSE revêt dans une entreprise. C'est vraiment un outil stratégique aujourd'hui.
Du coup, l'enjeu climatique au sein de Lumibird, c'est quelque chose, j'imagine, d'important ou qui prend aujourd'hui de l'ampleur au sein de vos équipes. Si c'est un sujet aussi de recrutement, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui se matérialise aujourd'hui par des engagements de votre entreprise sur ces enjeux-là? Vous êtes une équipe très technique, finalement, vous êtes des scientifiques. Est-ce que, du coup, vous êtes encore plus sensible, je dirais, que la moyenne à ces sujets?
Alors, on est sensible à de multiples égards. On est sensible parce qu'on développe des technologies habilitantes qui permettent d'avoir des impacts significatifs sur l'environnement. Je pense en particulier aux émissions de gaz à effet de serre. On fabrique des appareils de type LIDAR qui se montent sur des éoliennes pour accroître les performances des éoliennes. Bien qu'on soit une entreprise qui ne soit pas une grosse émettrice de gaz à effet de serre, on en émet quand même. Ce sont des sujets qui sont fédérateurs au sein d'un groupe. Donc forcément, on a aussi en parallèle de ce besoin, on a une démarche qui vise à contenir nos émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Voilà. En essayant de contrôler et en mettant en place des indicateurs qui permettent de s'inscrire dans un cercle vertueux de diminution de nos émissions.
Merci pour vos questions, Vincent. Timothée ?
Oui, donc Frédéric, j'ai une question double en fait. Vous avez un parcours technique, ingénieur de formation. Du coup, quelle a été la qualité en tant qu'ingénieur pour récupérer ce poste de responsable RSE ? Et comme elle est double, je finis sur le deuxième point. C'est concrètement quel a été votre chantier numéro un sur lequel ces compétences ont contribué ?
Alors, je vais répondre par la deuxième partie de la question, mais ça va faire sourire les personnes qui vont m'écouter. Le premier chantier, ça a été la DPEF, donc déclaration de performance extra-financière, puisque c'est un gros morceau dans le cadre de qui couvre en règle générale la partie RSE. Et donc, ça a été la priorité. Mais on va dire ma nomination se justifie de par mon expérience concernant le management de programme. Quand on implémente une direction RSE et un service RSE au sein d'un groupe comme le nôtre, il va avoir une dimension stratégique, mais aussi une dimension opérationnelle. Et cette dimension opérationnelle nécessite le déploiement d'outils, de process font appel en termes de méthodologie, de déploiement à des logiques de management de programme qui sont des logiques que, on va dire, je maîtrise un tout petit peu.
Et deuxième question, donc j'ai pu lire aussi que vous aviez commencé à travailler sur les sujets de la taxonomie verte.
Oui.
Et comme c'est un sujet assez récent en mon temps, en tant que responsable RSE, est-ce que vous pourriez démocratiser là, en quelques secondes les enjeux de
la taxonomie? En quelques secondes, c'est un challenge, on est en retard.
Très, très rapidement, taxonomie, ça n'a rien à voir avec les taxes. Hein. C'est lié à une volonté de l'Europe de promouvoir, on va dire, les financements vertueux, que ce soit au niveau social, ça arrivera d'ici quelques années, et ou immédiatement au niveau environnemental, en obligeant les entreprises à communiquer sur leur démarche. Et ce qui va permettre aux financeurs de choisir les entreprises les plus vertueuses. Donc, ça s'inscrit dans un cercle vertueux et qui est, promu au niveau de l'Europe.
Alors, on a bien vu, hein, Frédéric a un beau parcours, il est à la RSE, on sait que c'est un scientifique, donc je voudrais qu'on termine cette émission, non pas avec toutes vos passions, parce qu'elles sont nombreuses, mais avec une, qui va montrer qu'un scientifique peut avoir la tête ailleurs, et du moins les oreilles ailleurs. La musique, ça a été important dans votre vie, vous avez vécu ce qu'on appelle l'explosion des radios libres, c'est-à-dire cette liberté d'écouter ce qu'on voulait, quand on voulait. Je voudrais que vous me parliez un petit peu du garçon que vous étiez à l'époque, parce que aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes déçu parce qu'on crée moins qu'avant. C'était une époque où tout explosait. Alors, pour rassurer ceux qui nous écoutent, on va donner vos préférences. Ça va de Cure à U2, Police et en passant par Dire Straits.
Alors, je trouve qu'à l'époque, en tout cas, la création était moins standardisée et globalement et correspondait moins à des logiques marketing qu'à des logiques de réellement musicales et de création musicale. Alors ça existe aujourd'hui, hein, tout le temps. J'imagine que y a plein de musiciens en herbe qui ont cette ambition-là, mais très rapidement, un peu comme la nourriture, on se retrouve dans une logique de standardisation et laisse croire que finalement, cette époque, je ne dis pas que c'était mieux avant parce que j'aime pas trop cette expression-là, mais qui laisse croire qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins créatif. Et finalement, on a une musique qui est beaucoup plus stéréotypée par rapport à ce qu'on a conduit précédemment.
Voilà, alors Frédéric, pour résumer vos passions, vous aimez cette musique. Si je vous propose d'écouter Cure en Crète, parce que c'est un pays que vous aimez, où il y a de l'authenticité et qu'en plus, on pourra regarder via ce qui est moderne aujourd'hui, des documentaires scientifiques ou historiques, on a tout bon avec vous.
Alors là, vous faites mon bonheur.
Eh ben voilà. Vous avez fait le nôtre, en tous les cas, pendant
très
quelques
bien
minutes pour cette interview.
Eh ben écoutez, je vous remercie.
Merci Frédéric, merci également à Vincent et Timothée, fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Netron et le groupe EPSA.